au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Il y a quelques années, alors âgé de 28 ans, notre invité apprenait qu'il était atteint de rétinite pigmentaire et qu'il perdrait la vue. Une nouvelle qui vient, on le comprendra, bouleverser sa vie. À cette époque, il a pourtant une carrière remplie de promesses, comme courtier en valeur mobilière. Il dérape, s'enfuit en dedans, comme en dehors, dira-t-il. 4 ans d'autodestruction, perte d'emploi, errance dans des villes étrangères. Au gré du temps, il a su remonter la pente. On accueille avec grand plaisir François Beauregard. Bonjour à vous.
Bonsoir, bonjour.
Donc, si on parlait d'abord de cette rétinite pigmentaire, c'est un choc quand on apprend cela et qu'on a 28 ans. Qu'est-ce que c'est comme maladie?
La rétinite pigmentaire est une maladie dégénérative de l'œil. La rétine est la couche à l'arrière de l'œil qui capte la lumière et les couleurs et qui transmet cette information par le nerf optique. La rétinite pigmentaire est une maladie héréditaire qui n'a pas à ce moment-ci vraiment de remède. On peut dire que c'est héréditaire et incurable. Et la rétinite donc fait que petit à petit, dépendamment des cas, ça peut être plus rapide, vous perdez votre vision périphérique. Vous ne voyez qu'au centre et éventuellement le centre aussi finit par disparaître. Et vous êtes assez sensible à la lumière parce que dans l'œil, comme si je vous rapporte à vos années de biologie au collège, vous avez des cellules en cône et d'autres en bâtonnet. Alors, les cônes captent la lumière, la couleur, pardon, les bâtonnets captent la couleur, la lumière. Et donc, ce qui arrive, c'est qu'elles meurent petit à petit. Et celles qui captent la lumière sont les premières à disparaître. Et à ce moment-là, bien, vous finissez par voir que par la couleur, ce qui fait que vous devenez très sensible à la luminosité et vous ne voyez pas grand-chose quand il fait sombre. Et ça se fait petit à petit, puis ça se referme. Il y a des types de rétinite qui sont beaucoup plus rapides que d'autres. Ma sœur, mes deux frères et moi, nous sommes 4 enfants avec de la rétinite. La seule explication génétique possible, c'est que mon père, qui est mort assez jeune, en était atteint et que ma mère en était porteuse. D'un point de vue de génétique.
Oui.
Les probabilités qu'un couple comme ça, tout à fait par hasard, ne se rencontre sont très faibles. Alors, voilà, c'est une drôle de loterie, mais nous l'avons gagnée.
Et vous gagnez cette loterie à 28 ans, lorsqu'on vous apprend triste diagnostic.
Mm-hmm.
Et là, vraiment, c'est le choc. Parce que vous avez une carrière qui est très florissante.
J'avais tout pour moi. J'avais tout pour moi à ce moment-là. J'étais jeune, beau, riche, plein de succès. Alors, sans blague, j'étais courtier en valeur mobilière. Je commençais même, en fait, j'avais même un poste de directeur à ce moment-là. Je m'élevais donc au sein de ma firme. Je réussissais, j'avais l'estime de mes collègues, ma clientèle. Je réussissais bien. J'avais une blonde. J'avais plus d'argent que je ne savais qu'en faire. La vie m'appartenait à 28 ans. Tout s'ouvre devant nous. Et là, tout d'un coup, moi qui aimais bien conduire mon automobile, je me fais dire, ben, tu ne conduiras plus l'auto parce que c'est un danger public. Et je m'informe sur la maladie. Puis là, j'apprends que petit à petit, je vais perdre la vue à une vitesse qui est indéterminée, qui n'a rien à faire. Et qu'éventuellement, je pourrais plus lire l'écrit, ainsi de suite. Alors là, tout devient noir.
La prochaine chanson, la première que vous nous proposez de Chicago,
oui,
relate un peu aussi...
Ça va pas bien.
La descente dans le puits, si
ouais,
j'ose
ouais.
dire.
Oui, en fait, c'est une chanson. D'abord, j'aime la musique. Il est aveugle, il aime la musique. Non, ça n'a aucun rapport. J'aime la musique, bien que je n'ai aucune oreille. Et j'aime cette chanson-là. D'abord, je l'ai beaucoup aimée. Simplement pour la mélodie. Mais en fait, après, j'ai appris que ce que veulent dire les paroles 25 or 624, 25, c'est un argot qui veut dire de l'acide, c'est-à-dire une drogue psychédélique. Et 624, ça veut dire de 6 heures du soir à 4 heures du matin, parce que si vous partez vraiment sur un trip, là, vous risquez d'être vraiment gelé vraiment longtemps. Et si vous écoutez attentivement les paroles, vous allez voir que ça ne va pas vraiment très bien, là. Puis on se retrouve à la fin de l'année. nuit, le soleil est à la veille de poindre à l'horizon, le cocon de noirceur dans lequel on vivait, qui nous abritait du monde, est en train de se dissiper, on va faire face à la réalité, est-ce qu'on prend d'autres drogues, est-ce qu'on en a eu assez, est-ce que je suis capable de me lever, est-ce que je reste assis, c'est vraiment, je dirais, presque élémentaire comme préoccupation, là. C'est là que ça nous amène.
On vient d'entendre Chicago. Est-ce que, François Beauregard, c'est un peu ce qui vous est arrivé, d'une certaine façon?
C'est ce qui m'est arrivé d'une façon très certaine. J'ai abusé de substances que je ne recommanderais pas à personne. Et ça a causé la déchéance de ma carrière, de ma vie affective. Ça m'a isolé de mes amis, ainsi de suite. Alors, oui, j'ai pris une très mauvaise pente à ce moment-là. Est-ce que je l'aurais prise de toute manière ou est-ce que je l'ai prise de façon accélérée à cause du choc d'apprendre que j'allais perdre ce que j'avais, qui était un succès matériel extérieur, matériel et d'estime, si je peux dire, professionnel? Alors, est-ce que c'est... Enfin, j'ai pas la réponse à cette question-là. Mais le fait est que, oui, vers l'âge de 28, 29, 30 ans, après en avoir mené large, je n'en menais plus très large.
Et là, vous vous retrouvez finalement un peu seul, pour ne pas dire totalement seul.
Très seul, oui.
Et vous devez, à quelque part, faire une espèce d'introspection, un voyage intérieur. Oui. Vous disiez vous-même, et je le mentionnais, vous vous êtes enfui en dedans comme en dehors.
Oui, bien, en fait, les gens qui ont des problèmes de cet ordre, c'est une fuite. C'est juste qu'on ne peut pas se fuir soi-même. Alors, des fois, ça prend l'aspect de fuite géographique. Hein. On change de ville, on change de décor, on change d'amis, ou on n'a plus d'amis. On veut juste que ça nous rattrape jamais, que notre réalité qu'on trouve insupportable ne nous rattrape pas. On veut pas se réveiller le lendemain. On veut que la nuit dure toujours. Donc, il y a cette fuite-là. Et parce qu'à l'intérieur, c'est une vacuité. On veut pas regarder ce qui se passe en dedans de nous. C'est un déni. Alors, il faut justement faire une pause, s'arrêter, puis se questionner. J'ai eu un réflexe. Puis d'autres personnes en auront un autre, là, mais le réflexe que j'ai eu, et parce que mon rapport à Dieu ou à la spiritualité a été en grande partie influencé par ma jeunesse. J'ai passé 7 ans dans un camp de vacances qui était organisé par des pères dominicains. Et les dominicains, et l'hiver, j'étais chez des jésuites au collège, alors bon, c'est autre, on en reparlera, mais les dominicains ont ceci, ils ont une spiritualité assez bonhomme, hein, assez joyeuse, proche de la nature, enfin, c'est comme ça que je l'ai comprise. Et dans ce sens-là, je ne suis pas un Canadien français qui est né avec un Dieu vengeur et menaçant. Ma mère détestait l'Église, donc je n'ai jamais été à l'Église plus qu'il faut dans ma vie, donc je n'avais pas cet aspect réfractaire avec l'Église catholique là, ou avec la religion en général ou avec l'idée de religion. J'aime pas tellement les choses organisées d'un point de vue spirituel, mais donc c'est cette recherche-là, une recherche spirituelle. J'ai eu comme le réflexe, quand tout était vraiment plus sombre, de me tourner. J'ai regardé vers le ciel, j'aurais pu regarder ailleurs, mais j'ai regardé vers le ciel et j'ai dit, je pense pas que tu m'aies mis sur terre, ou j'ose croire que j'ai pas été mis sur terre pour mener la vie que je mène puis disparaître, la prison, la folie ou la mort à l'âge de 30 ans. Alors, il doit y avoir d'autres choses. Dis-moi, c'est quoi mon chemin, puis je vais le faire.
Et Pagliaro dirait peut-être que vous avez entendu frapper.
J'ai entendu frapper et j'ai compris que je n'étais pas tout seul, puis qu'il y en avait d'autres, puis qu'on pouvait aller faire quelque chose ensemble.
François Beauregard est avec nous. Et cette chanson de Pagliaro a vraiment une signification très profonde pour vous.
Oui, ben c'est pas juste parce que la musique est super bonne puis on a envie de danser qu'on l'entend. Il y a ça, c'est sûr, mais les paroles sont simples. Si vous écoutez ce que ça veut dire, en fait, c'est mon interprétation, on voit que c'est quelqu'un qui pense que ses amis l'ont abandonné, qui est tout seul, puis il se morfond chez lui. Tout d'un coup, ça cogne à la porte. Il s'aperçoit qu'il est pas tout seul, qu'il y a des gens qui pensent à lui. Ils sortent, là. C'est sûr qu'il y a un aspect de liberté, là. On comprend c'est des gens qui font de la moto, là. Mais ils vont partir, ils sont ensemble, unis. Ils ont la main dans la main, nous allons tous partager, et ce n'est pas seulement la chance qui nous fera gagner. Alors, j'y vois un aspect qui va rejoindre des choses que j'ai vécues, qui m'ont beaucoup
aidé. Donc, cette quête d'un être suprême, peut-être, qui est là pour vous tendre la main d'une certaine façon?
Oui, mais c'est plus diffus qu'un être suprême. Moi, je pense que c'est plus karmique que ça, là.
Oui.
Mais enfin, sans... Mais il y a des... Je pense qu'il y a comme une façon de vivre qui nous permet d'être en harmonie avec l'univers.
De reconnecter sur le cosmique.
Exact. Et puis, il y a une force diffuse mais réelle qui existe, qui unit les êtres humains, sur laquelle il faut accepter de se brancher. Puis, évidemment, ça suppose qu'on n'a pas trop d'attentes, qu'il faut être ouvert à ce qui peut se passer, qu'il ne faut pas faire trop de jugements. Mais ça, ces choses sont vraiment difficiles à faire parce que moi, j'ai beaucoup d'attentes, puis je passe mon temps à me projeter dans le futur, puis j'ai beaucoup de préjugés. Alors, tout ça mis ensemble, ça prend une certaine éducation qui ne vient malheureusement souvent que par la souffrance.
On y reviendra à l'éducation, mais pour l'instant, vous nous proposez aussi une chanson de George Thorogood, qui est un musicien de blues et de rock originaire du Delaware aux États-Unis. On associe souvent sa musique au monde des bikers. Particulièrement, il y a souvent d'ailleurs des titres qui sont des compilations de Harley Davidson, dit-on, commanditées par cette compagnie. La chanson, c'est One Scotch, One Bourbon, One Beer. Ça, pour vous, ça évoque un moment particulier?
Non, je dirais que ça évoque plutôt une époque particulière.
Oui,
voilà, c'est ça. Mais ça s'écoute bien, là, écoutez. C'est... Puis il y a la voix gutturale, là, qui va avec. Là. C'est sûr qu'il y a de la fumée dans les lumières en haut, à fond.
Alors, on écoute.
Real clear. I want one bourbon, one scotch, one beer, one bourbon.
notre invité, François Beauregard, qui apprend un jour qu'une maladie héréditaire lui fera perdre la vue. D'ailleurs, à ce niveau-là, vous avez encore une vision partielle.
Oui, j'ai la rétinite, ça se présente de différentes façons, mais généralement, vous avez une vue d'abord, une perte de la vision périphérique. Alors, ce qui ne vous reste que c'est que le centre. En ce moment, ce que je vois, c'est un peu comme si vous regardiez à l'intérieur d'un périscope. Hein? Une vision bioculaire normale à 120 degrés d'ouverture, moi je vois en dedans de 5 degrés.
Alors, donc votre champ visuel est très restreint.
Mon champ visuel est à peu près le 15e du vôtre. Alors c'est ça. Ce que je vois en plein centre, je le vois très bien. Les gens sont toujours un peu émerveillés. Je me promène sur la rue, je suis capable, si je la trouve, de trouver le nom de l'adresse, le nom de la rue, si je trouve la pancarte comme il faut. Des fois, ça fait sursauter les touristes quand je m'approche d'eux avec ma canne, puis je leur demande, est-ce que je peux vous aider?
Et l'éventualité d'aboutir...
Avec une vision nulle?
Oui.
Bien, ça va probablement arriver. Ma vision, aujourd'hui, j'ai 58 ans. Je vois, je dirais, le tiers de ce que je voyais il y a 10 ans. Je sais que déjà maintenant je vois moins bien que je voyais il y a un an et demi. Dans quelques années je serai plus capable de lire l'écrit, alors c'est pour ça que j'écoute beaucoup plus les romans ou les magazines qui m'intéressent. J'écoute The Economist maintenant en podcast. J'écoute tout Ponson du Terrail, un romancier d'aventure du 19e siècle, Rocambole. Et tout ça, j'écoute ça maintenant. Je préfère écouter que de lire, parce que lire, ça devient fatigant. Puis bientôt, je serai plus capable, alors je suis aussi bien de m'habituer.
J'imagine que vous allez écouter la prochaine pièce avec peut-être une attention différente de celle de l'ensemble des auditeurs. Les Feuilles mortes, interprétées par Chet Baker et Paul Desmond, c'est presque un moment, je dirais, de méditation. Mm-hmm. Parce que c'est joué, bien sûr, à la mode jazz, mais cette chanson prend tout son sens lorsqu'on l'entend interprétée par ces deux grands musiciens. On a l'impression qu'on fouille au-dedans de soi. Thank you. Nous sommes de retour à l'émission Au gré du temps. Avec nous, François Beauregard. Vous nous avez parlé d'un milieu quand même assez éduqué dans lequel vous êtes issu. Vos parents faisaient partie de ce qu'on peut appeler la bourgeoisie canadienne-française.
Oui, tout à fait. Mon grand-père paternel était président du Sénat canadien. Mon grand-père maternel était maire de la ville de Hull. Alors, mes parents étaient issus de familles aisées et bien en vue dans la société canadienne-française. Alors, on a été élevés dans ce cadre-là. J'étais un petit garçon d'Outremont, puis j'étais à Brébeuf.
Alors, vous avez été entouré dans votre jeunesse de livres, je présume.
Oui, beaucoup, beaucoup. La valeur culturelle, et ça c'est un des plus grands cadeaux que ma mère nous a fait, nous, les quatre enfants. C'est l'amour de la langue française. L'amour de la lecture. Chez nous, ce qui était valorisé, c'était la culture, la littérature. C'était pas de faire de l'argent, de réussir ou d'être bon en sport. Il y a des familles où ce sont là les valeurs, et puis je le respecte tout à fait, mais chez nous, c'était une famille livresque et cultivée. Nos soupers de famille, là, ce sont des joutes oratoires qui peuvent durer des heures.
Et sur quelle thématique?
Oh, ça peut être n'importe quoi, mais ça peut surtout... On est quatre enfants et ma mère, quand elle pouvait ou peut y participer, mais on est vraiment très dissert et ça, on a l'impression que c'est une sorte de géopardie éclatée, là. On rivalise dans les choses les plus triviales ou les jeux de mots ou les calembours ou les choses de ce sens-là, puis on saute du coq à l'âne. C'est difficile à suivre, mais nous, on a beaucoup de plaisir.
Et vous avez, bien sûr, suivi, vous l'aviez dit, vous avez fait vos études à Brébeuf.
Oui.
Ensuite, vous avez fréquenté un camp...
Le camp Tecacuita.
Tecacuita, qui était dirigé par les Dominicains.
Exact.
Donc, vous avez été entouré de valeurs, peut-on dire, de valeurs...
Humanistes, qui ont fait ma vie. Parce que mon père est décédé quand j'avais 8 ou 9 ans.
Oui.
Alors, j'avais pas vraiment de modèle paternel.
Beaucoup d'amour.
Une famille très unie. On s'est bien débrouillé. Ma mère a été très courageuse. Puis elle a élevé 4 enfants avec peu d'argent. Puis elle a vu à nous éduquer de façon exemplaire. Mais il y avait quand même peut-être... on peut pas tout faire seul. Donc, il y avait peut-être un aspect qui a été rempli. Les jésuites au Collège Brébeuf m'ont appris à penser, à être responsable, à reconnaître que les privilèges que j'avais dans la société venaient avec des responsabilités auprès de la société.
On peut le mentionner, vous avez eu un mentor, le père Gaston Lapointe.
Oui, le père Gaston Lapointe au camp Tecacuita, qui lui m'a appris aussi qu'il y avait des valeurs importantes dans la vie, dont la persévérance et l'amitié.
Est-ce qu'il a été le père manquant, peut-être?
En partie, oui, tout à fait. Oh, oui, puis j'ai beaucoup d'affection et de respect pour lui, pour son œuvre.
Qu'est-ce que vous retenez particulièrement de cette époque?
Bien, ce qui m'a sauvé plus tard dans ma vie, c'est l'amour de la nature. Ce que j'ai appris au collège et au camp, c'est de faire du sport, et aussi plus particulièrement au camp, le plaisir d'être dans la nature, puis d'être seul par rapport à son défi dans un milieu qui peut être difficile. Là, faire de la montagne, ça demande à se dépasser, mais ça demande aussi de l'humilité si on veut être capable de le faire. Dans les moments les plus sombres que j'ai vécu dans ma vie, le fait de me rappeler des plaisirs ou des joies simples de faire de la randonnée en montagne avec mes amis, ça m'a beaucoup transporté.
À votre suggestion, on va écouter The Supremes.
Oui,
d'amour.
Motown, c'est bon, parce que quand vous écoutez ça, vous n'êtes pas capable de rester assis.
Just have to
Une chanson qui parle d'amour, évidemment.
Oui.
Et beaucoup d'amour. L'amour a été présent tout au long de votre vie, même à travers la difficile épreuve que vous avez dû traverser après avoir appris que vous perdriez la vue.
Bien, je dirais que je ferais la distinction entre deux choses. L'amitié et l'amour, je dirais, affectif. J'ai rencontré une femme formidable il y a de ça plus de 20 ans, Mme Hélène Desjardins. Et que je peux dire que c'est la première personne que j'ai vraiment aimée de la bonne manière. Puis que c'est pour ça qu'après 20 ans, on s'aime encore plus qu'au début. Et ça, c'est une chose que j'aurais pas pu apprendre quand j'étais plus jeune et moins à l'écoute de ce qui se passe en dedans. Puis l'autre valeur qui me semble importante dans la vie, c'est l'amitié.
Quand vous êtes tombé au fond du tunnel, là, au fond du puits, il a fallu que cette amitié puisse
se manifester.
Oui, elle s'est manifestée.
Oui, tout à fait. Il y a de mes très bons amis qui sont vraiment, malgré mon comportement autodestructeur et toutes les fois que je leur tournais le dos, ils venaient quand même me chercher. Je pense entre autres à Jacques Patnaud qui a eu un flash, qui s'est dit où est-ce qu'il peut être. Mais ma famille savait que j'étais quelque part en Amérique du Nord, mais ils ne savaient pas où. Alors ça, c'est comme une aiguille dans une botte de foin, là. Puis c'est Jacques qui s'est dit c'est là-bas qu'il est. Il a trouvé où j'étais. Il était capable de me rejoindre puis de me rechercher. À d'autres moments, plus tard dans ma vie, quand je passe au travers de quelques maladies, d'autres de mes amis se sont levés puis sont venus s'occuper de moi pour m'aider à passer au travers.
Cette main tendue dans la vie, elle est importante.
Ah, monsieur, oui. Moi, je pleure pas dans les films quand c'est triste. Je pleure dans les films quand ça va bien. Je pleure pas quand c'est triste. Moi, Love Story, là, ça n'a aucune larme de mon corps. Mais Rocky, ça, je vais pleurer comme un veau. Parce que c'est la détermination, c'est la persévérance, c'est...
C'est votre côté Disco Boy, dirait Frank.
Oui, ben Disco Boy, c'est parce que moi, j'écoutais beaucoup de Frank Zappa quand j'étais jeune. C'est peut-être parce que quand vous avez l'esprit ailleurs, c'est une musique, c'est un excellent musicien, Frank Zappa. Puis c'est drôle parce que Disco Boy est en fait une chanson qu'il a écrite pour se moquer de l'univers, justement, du disco. Alors, c'est à la fois... le fait que j'aime Frank Zappa pour son humour et
que
sa
vous
musique.
Ne pleurez pas pour Love Story.
Non, voilà, exactement. And you think someday that you just might go some way. Disco girl, you're by the side, you need a disco boy. Straight to right, don't do the dance. Take all the night, you get his hair along, but you can get his phone. Disco boy! Run to the toilet and comb your hair. More than three times and you're playing with it while you're standing there. Disco boy, do the bump every night till the disco girl is really right. Gonna fall for your line and feed you a box full of chicken delight. Well, disco chit-chat, so did you. Bump that booty all across the floor. A disco dream, a disco win. You never go duty, that's what you think. You never go duty, that's what you think. You never go duty, that's what you think. Duty. You never go duty. Duty. You never go duty. Go on, take your teeth out, girl.
François Beauregard, vous nous faites découvrir des pièces qu'on n'entend presque plus maintenant.
Non, ben c'est peut-être parce que je me suis arrêté dans le temps en 1988 aussi. Mais enfin, ça, c'est autre chose. La première motivation quand j'aime de la musique, là, c'est parce que ça me fait lever de mon siège.
Mais j'aime cette expression, le temps s'est arrêté en 1988. Vous avez eu vraiment l'impression que... C'était fini ou...
Oh, oui, ben en 1988, j'avais quoi à ce moment-là? J'avais 30 ans. Alors, c'est au moment où j'ai appris que j'allais que ma vue allait décliner, ainsi de suite. Mais je pourrais aussi bien vous dire que ma vie a recommencé en 1990 ou ainsi de suite. Alors, oui, c'est ces années-là qui ont été, qui ont fait comme une coche en V dans ma vie. Là.
Et quand les gens disent « vous êtes pas chanceux », vous...
Ah, ouais. Ben, les gens disent que je ne suis pas chanceux parce que ils disent « Ah, mais tu as une maladie héréditaire, tu vas devenir aveugle, tu n'y peux rien. »
Vous n'êtes donc pas chanceux.
J'ai eu deux cancers. J'ai eu deux fois le cancer. Là, les gens recommencent. « Ah, mon Dieu, le cancer en plus, tu n'es donc pas chanceux. » Mais moi, je trouve ça comique parce que je vois ça dans l'autre sens. Je me dis « Je suis extraordinairement chanceux. » Parce que j'ai été capable de passer au travers de ces épreuves-là, et pas que par moi-même. J'ai été chanceux parce que ma famille, mes amis, les choses que j'avais apprises plus tôt dans ma vie m'ont aidé, que les choses que j'ai apprises en passant au travers d'une épreuve m'ont permis de passer au travers de l'épreuve suivante, puis de passer au travers de la suivante, et ainsi de suite.
Et d'être branché sur les vraies choses?
Bien, les vraies choses, je ne sais pas si c'est les vraies choses, mais une chose, en tout cas, qu'on apprend assez vite, c'est que on tente à perdre ses préjugés quand on est soi-même handicapé, puis qu'on s'aperçoit que les gens ont des préjugés envers les handicapés. Deuxièmement, quand on s'aperçoit que notre vie peut être extraordinairement courte, on n'apprend à pas se choquer pour rien. On essaye, en tout cas. Puis à profiter de chaque jour comme étant... Chaque fois que je joue au hockey, parce que je joue au hockey presque à l'année longue, là, avant chaque match, je me dis, là, profite-en, parce que tu sais pas si c'est le dernier.
Vous jouez au hockey en dépit de votre handicap.
Oui, ça, c'est une autre histoire. Je suis un joueur de hockey sonore. Le hockey sonore est une forme de hockey adaptée pour les personnes handicapées visuelles. On joue exactement comme un match de hockey ordinaire. Là. La seule chose qui est différente, essentiellement, c'est que notre rondelle est plus grosse, plus lente et fait du bruit. Mais sinon, c'est du hockey... Comme du hockey.
Sur la glace.
Sur la glace, avec un arbitre qui a toujours tort, évidemment. avec des coéquipiers, des tournois. J'ai joué au hockey à Washington, à Chicago, à Vancouver, à Toronto, en Californie. Le sport permet de rencontrer beaucoup de gens qui ont les mêmes problèmes, mais qui aussi s'en sont sortis. Et quand je parle des valeurs d'amitié, de communauté, de persévérance, je pense que c'est un bel exemple, le sport adapté.
Alors, vous aimez la vie. Voici une belle chanson d'un collectif français, Taïro. La chanson pour titre « Aime la vie ». Et c'est vraiment un coup d'envoi dans, je dirais, la bulle de l'espoir.
Yeah, yeah, yeah. On n'a qu'une seule vie. Je n'ai qu'une vie et je veux la vivre encore et encore. La vie est si précieuse, comment la laisser tomber? Malgré toutes les frustrations, jamais je ne l'abandonnerai. C'est peut-être pas une vie parfaite, mais c'est celle qu'on m'a donnée. Il ne tient qu'à moi d'en saisir les opportunités. Il y a des jours sans et il y a des jours de lumière. Fais en sorte que demain tu deviennes meilleur qu'hier. Le ciel est la limite et l'amour sans frontières. À chacun son chemin, à chacun sa manière. Aime la vie, même si elle te demande beaucoup d'efforts. Tu n'as qu'une vie, et ce qui ne te tue pas te rendra plus fort. J'aime la vie, même si elle me demande beaucoup d'efforts. Je n'ai qu'une vie.
Aimer la vie comme une rengaine, un ange sur l'épaule. Bohème dans ma dégaine, mais je ne fais pas l'aumône. Je bégaye, mais je ne trouve pas les mots. Fais tourner cette boucle de reggae que je chante pour les mômes, que je chante pour l'émotion. On te l'a déjà dit que la vie ne vaut rien, rien, mais rien ne vaut la vie. Et moi je vis hardcore, les gens me demandent de me poser. Mis à mort, sache que j'aurai toute la mort pour me reposer. J'ai appris tard qu'il faut garder ce que l'on aime, qu'on ne fait pas avec ce qu'on a, mais avec ce que l'on est. L'amour n'est jamais sûr, tant pis si ça va vite. Les gens raisonnables durs, mais les gens passionnés vivent.
Aime la vie, même si elle te demande au bout des pas. Tu n'as qu'une vie, et ce qui ne te tue pas te rendra plus fort. J'aime la vie, même si elle me réclame au bout des pas. Je n'ai qu'une vie, et je veux la vivre encore et encore. Les discriminations, les coups de fil de la banque, les souvenirs et l'absence d'un être qui nous manque, le souffle de l'amour, les notes d'un saltimbanque, tout ça fait partie de la vie, nourrit nos existences. Pas de joie sans peine, rarement d'amour sans douleur, de sourire sans les pleurs ou de courage sans la peur. Tant que battra mon cœur, j'apprendrai de mes erreurs. Oh, de la souffrance, de la grandeur. Aime la vie, même si elle te réclame au bout des pas. Tu n'as qu'une vie, et ce qui ne te tue pas te rendra plus. J'aime la vie, même si elle me demande au bout des pas. Je n'ai qu'une vie et je veux la vivre encore et encore. Yeah, yeah, yeah.
T'avais jamais entendu de reggae français?
Yeah, yeah, yeah. On n'a qu'une seule vie.
Votre témoignage, François Beauregard, est vraiment stimulant dans la mesure où vous continuez, vous disiez, de jouer au hockey.
Oui.
Vous êtes très actif au plan sportif.
Oui.
Votre handicap n'a pas limité votre façon de voir les choses et
non.
Le jeu de mots est voulu.
Moi, je me suis toujours dit que c'est pas parce que je suis aveugle. Je me suis toujours dit, c'est pas vrai. Maintenant, je me dis que je peux pas être... L'une des pires choses dans la vie, là, c'est l'apitoiement. L'apitoiement, c'est corrosif. On a le droit de se sentir, de s'apitoyer puis d'être choqué contre la vie là, à peu près 8 minutes. Après 8 minutes, là, il faut se lever puis faire d'autres choses. Puis, je me suis toujours dit que c'est pas parce que je suis handicapé que je vais m'empêcher de faire ce que je veux faire, dans la mesure où je mets pas la vie des autres en danger. Là.
Et c'est pour ça que vous disiez que vous étiez chanceux, parce qu'à travers cette épreuve-là, vous avez pu retrouver une façon d'accepter la vie avec encore plus de possibilités qu'elle ne vous en offrait auparavant.
Oui, j'aime bien plus vivre que ne pas vivre, croyez-moi. C'est surtout qu'on s'aperçoit à quel point c'est fragile. Puis on ne sait pas, là, je sors de chez vous là, demain, tout à l'heure, je peux être frappé par la foudre ou par un autobus ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Quand ça va bien, profitons-en, là, puis essayons de pas trop rien déranger. Là. Puis on prend tellement de choses pour acquis, c'est remarquable. Puis c'est quand on commence à les perdre ou qu'on les perd toutes, qu'on les regagne, qu'on pense qu'on va les reperdre à nouveau, et ainsi de suite, qu'on se dit « Oh! »
Est-ce que votre entourage...
Vais-je être chanceux de cette manière aussi souvent?
Est-ce que votre entourage trouve que vous êtes parfois difficile à suivre?
Ben, disons que je suis un petit peu hyperactif, là. j'en conviens. Peut-être que c'est une façon pour moi de canaliser mon
Mais c'est pas un défaut.
Non, mais ça peut être...
Mais ça peut être essoufflant.
Ça peut l'être, dépendamment. Mais j'aime ça être assis et ne rien faire.
Ouais.
Oui.
Vous nous parlez de Jean Ferrat, La Montagne.
Oui.
Pourquoi donc cette chanson?
Bien, ça me ramène à mes années au Cantiquaquita, parce que c'est une chanson qu'on entendait souvent là, qui nous rappelle que en dehors de la vie urbaine et de tous ces artifices matériels, la vie est en fait très, très simple. On fait partie de la nature et puis c'est quand on est capable de s'émouvoir devant des choses comme un rayon de soleil qui passe au travers des branches, une journée qui fait soleil et qui a un ciel bleu, puis qu'on voit les branches, les feuilles qui font juste miroiter un petit peu en tournant là, dans le vent. Là. Ça, c'est très joli.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets. du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver? Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver? Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sorties. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver?
La montagne, Jean Ferrat, François Beauregard était notre invité aujourd'hui. François, avant qu'on se quitte, ce serait important que vous nous glissiez juste un petit mot, puis on pourra en discuter parce que vous allez nous revenir la semaine prochaine. Vous avez été un des artisans, si j'ose dire, de la télévision en descriptif pour les personnes handicapées visuelles.
Je suis un participant. Il y a une chaîne qui s'appelle Ami Télé, qui est disponible ici au Québec sur le câble. Sa chaîne parente s'appelle AMI au Canada. C'est de la télévision en vidéo description pour permettre aux personnes handicapées visuelles ou aveugles de savoir ce qui se passe à l'écran. La technologie est essentielle pour nous connecter sur le monde. Nous qui pouvons avoir de la difficulté à lire l'écrit. Alors, j'ai le plaisir de travailler à AMI, Ami Télé, parfois comme chroniqueur et comme membre du conseil d'administration, parce que je suis pas très habile de mes mains. Moi, j'essaie de faire du bénévolat avec ce que je peux amener.
Vous avez travaillé étroitement avec quelqu'un qui est passé à notre micro il y a quelques semaines.
Monsieur Philippe Lapointe.
Oui,
un homme charmant.
Et qui nous a dit grand bien de vous, d'ailleurs.
C'est pour ça que je le trouve charmant.
Ben, Monsieur Beauregard, on vous reçoit la semaine prochaine. On poursuivra cet entretien vraiment très sympathique. Le temps de vous dire que cette émission a été réalisée sous la supervision de Pierre Degagné, Armand Dubois à l'animation et la réalisation. Et on va se quitter avec une autre de vos propositions, François. C'est le groupe Muse. On entendra peut-être juste un court extrait, mais ce sera notre thème de fermeture, Uprising.
Oui, exact.
Pour quelle raison?
Bien, c'est parce que je trouve ça très inspirant. D'abord, c'est la voix et nous hante. Et c'est M. Matthew Bellamy du groupe britannique Muse. Puis, ça parle de being victorious. Puis, on ne se fera pas écraser. Puis, on s'adresse comme une sorte de Big Brother envahissant. Puis, on dit non, ça ne marchera pas comme ça. Je vais me tenir debout.
À la semaine prochaine.
Merci.
patience, the will was you. I tried to push, tried to keep us all down there.